Art et culture à la rencontre des femmes artistes et artisanes. Coucou, c'est Myriam et Élise. Ayant terminé notre service civique à Yemaya, notre partenariat avec cette structure culturelle a pris fin en mai dernier. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Gauguin et de son rapport aux femmes.
Alors, pour la petite histoire de cette émission, j'ai effectué un voyage autour de l'Europe en train pendant le mois de juin dernier. Et j'ai fait un arrêt à Berlin où je suis tombée sur cette super exposition sur Gauguin. Et j'en ai parlé avec Myriam et ça faisait écho avec son sujet de master. Donc on s'est dit, allez, c'est parti.
Let's go.
Donc l'exposition Paul Gauguin, Why Are You Angry? Désolée pour l'accent. De la Alte National Gallery. Porte un regard sur l'œuvre de Gauguin, qui est façonnée par des conceptions occidentales et coloniales de l'exotique et de l'érotique. Donc ce regard est juxtaposé avec des données historiques et des œuvres d'art contemporain international. Avant de commencer, on va commencer par une petite pause musicale avec le titre « Misez pas douce » de Léa Macala.
Yeah.
il est temps de vous faire un petit portrait de Gauguin. Paul Gauguin est né à Paris en 1848 et mort à Atouhona en 1903. Il est l'une des figures de proue de l'art moderne et ses tableaux les plus connus ont été peints à Tahiti entre 1891 et 1901. Gauguin quitte Paris, capitale artistique de l'époque, sa femme et ses cinq enfants, en 1891, pour entamer une quête spirituelle et dite artistique en Polynésie française, où il a vécu jusqu'à sa mort. C'est dans cette période qu'il crée l'une des œuvres les plus majestueuses qu'il ait créées, qui s'appelle « Pêcheuse tahitienne » en 1891, conservée à la National Gallery.
Gauguin l'alchimiste. Nous connaissons sa riche production colorée, aux teintes primitivistes, symbolistes et profondément majestueuses sur bien des points. Cependant, il nous semblait pertinent de rappeler les travers de cette œuvre et d'y apporter un regard critique. Entre fétichisation et pédocriminalité, le personnage de Gauguin est loin de l'artiste utopiste en quête d'un nouveau monde que les élites du monde de l'art encensent. Par trois reprises, il épouse des adolescentes tahitiennes dont l'âge varie entre 13 et 14 ans, c'est Vahiné. Terme distanciateur et profondément déshumanisant pour qualifier ces jeunes filles à peine pubères qu'il utilise comme des objets, tantôt pour ses peintures, tantôt pour son propre appétit sexuel. L'artiste a peint d'innombrables tableaux exposant des femmes nues. On comprend qu'elles sont littéralement de vraies obsessions au cœur de ses intrigues.
Pourtant, lors d'un retour de Tahiti le 3 août 1893, Gauguin met en mots son expérience lors de son premier voyage océanien. Les chercheuses, chercheurs, ont pu glaner quelques réflexions grâce à son carnet de voyage artistique dit Noah Noah. Visiblement, son arrivée est marquée du sceau de la déception. Selon lui, Tahiti a perdu sa pureté originelle, son fameux Éden immaculé. Cela reviendrait à dire que les Tahitiens tahitiennes seraient déjà passés de l'état de nature à l'état civil, pour reprendre les termes de ce bon vieux Rousseau. Ces concepts s'érigent en véritables stigmates dans la pensée de Gauguin, cette croyance réelle qu'il y aurait finalement une coupure nette entre le sauvage et l'homme civil, plein de vices et de perversions. On voit très clairement la pensée coloniale qui se bouscule à sa démarche dite artistique. Paul Gauguin, avec la volonté de s'écarter de son terreau dit bourgeois, classique, dira lui-même qu'il incarne un sauvage. Plus précisément, un autre homme, un sauvage, un Maori. En réalité, il renforce les écarts qui semblent exister dans sa vision, entre lui et ce nouveau peuple qui le fascine. En cela, la sauvagerie serait toute la fantaisie, la marginalité. Il exotise son rapport à l'autre en se considérant comme tel, alors que ce dernier fait partie intégrante du système colonial et de son expansion. Si vous me permettez le terme, on pourrait clairement voir Gauguin comme allègrement opportuniste.
Concernant son obsession des femmes, il dira dans un carnet « Avant et après » en 1903 « J'aime les femmes quand elles sont vicieuses et qu'elles sont grasses. » Aussi, dans un autre carnet dont nous avions parlé plus haut, nommé Noah Noah, il dit « Toutes veulent être prises à la mode maori, sans un mot, brutalement. Toutes ont en quelque sorte le désir du viol. » D'ailleurs, on pourrait presque parler de tourisme sexuel à ce stade. Lorsqu'il arrive à Tahiti, il désire avoir auprès de lui une domestique, une modèle, une partenaire sexuelle et, si possible, une femme qui va traduire pour lui. Il va trouver ce qu'il souhaite en épousant Théa Mana. Cette jeune fille n'a que 13 ans. Il est peut-être intéressant de redire que la moyenne sexuelle légale en France est de 15 ans. Voilà, je rappelle ça, on ne sait jamais. Revenons à Gauguin. Ce dernier décrit d'ailleurs souvent la peur qui se loge dans les yeux de sa nouvelle épouse. Il décrit cela en disant qu'il trouve ça beau. Rappelez-vous de cette toile de Gauguin, représentant sa dite épouse, appelée Manao Tupapo, réalisée en 1892, où nous la voyons à plat ventre sur le lit, les bras écartés sur l'oreiller, comme si elle se rendait. C'est assez effrayant.
D'ailleurs, pour continuer avec la lecture contemporaine et féministe, Gauguin n'a de cesse que de parler du fait qu'elle fait partie d'une race autre, inconnue et mystérieuse. Il joue souvent sur le fait que la couleur métisse des femmes est un jeu de peinture, etc. Non, il faut le dire, son œuvre est appréciée que par un public euro-phallo-logo-centré. Quelques exemples d'œuvres qui prouvent ce regard fétichisant de Gauguin. La pensée qui est en toile de fond chez Gauguin est que ce peuple demeure et reste dans son imaginaire à l'état d'enfance, théorie qui est évidemment rejetée par l'anthropologie et notamment par l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Cette idée de l'enfance le conforte, on le dirait bien, à mettre en valeur des jeunes filles permissibles et nues, qui le regardent avec beaucoup, beaucoup d'innocence. Mais ont-elles donné leur consentement pour être peintes, ou juste être regardées pendant plusieurs heures pour figurer sur une toile ? On ne le saura pas. Dans la plupart du temps, Gauguin met en avant des femmes, souvent exposées comme lascives, passives, avec le regard qui se dérobe. Dans la plupart des toiles, ces femmes sont couchées, souvent peu expressives. Pour avoir une vision plus exhaustive du rapport sexiste que Gauguin entretient avec les femmes, on vous rappelle la chaîne de vulgarisation en histoire de l'art, Art d'Histoire, et le titre c'est « Paul Gauguin sème la zizanie, opportuniste, misogyne et colon, ça a le mérite d'être clair ». Pour continuer, on va d'abord faire une petite pause musicale avec le titre « Les Legas » de Canzonere delle Lame.
Oh, ilia, ilia, la, e la Lega crescerà, e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori. Oh, ilia, ilia, la, e la Lega crescerà, e noi altri lavoratori, vogliamo la libertà. Abbiamo delle belle buone lingue, se ben che siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue, e ben ci difendiamo. Oh, oh, lio, lio, la, e la Lega la crescerà, e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori. Oh, lio, lio, la, e la Lega la crescerà, e noi altri lavoratori, vogliamo la libertà. Abbassate la superbia, abbassate la superbia. E voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia e aprite il portafoglio. Oh, oh, lio, lio, la, e la Lega la crescerà, e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori. Oh, lio, lio, la, e la Lega la crescerà, e noi altri lavoratori, vogliamo la libertà.
Ça nous tenait à cœur de vous présenter rapidement la notion de colonialité du genre, pour tenter de rester dans une perspective critique intersectionnelle, mêlant l'idée de race, comme nous pouvons la penser en sociologie, et l'idée de genre, afin de dénoncer le rapport patriarcal qui se trouve dans ces deux notions clés. La philosophe féministe argentine Maria Lugones avance la notion de colonialité du genre, pour démontrer la manière dont les Européens ont imposé leur conception de ce que doit être le genre binaire, féminin, masculin, à des sociétés dont cette idée peut s'avérer complètement différente. Nous percevons une véritable sexualisation des gestes et le constat d'un rapport historique des hommes à penser la femme comme un être objectifié par son sexe.
Nous pouvons en déduire que le corps colonisé, notamment féminin, est victime d'une dynamique de fascination-répulsion. Cette sexualisation est un prétexte indubitable afin de mieux dominer. Le joug colonial exerce une lutte véritable contre les corps colonisés en mouvement par leur vision hiérarchisée du monde. Ce regard colonial induit une classification dite raciale, vivement conceptualisée par des savants européens qui instituent dans les imaginaires que les corps des Polynésiennes paraissent plus désirables, admirables et profondément attirants pour les curiosités occidentales. Ces femmes de l'ailleurs seront, aux yeux de la colonisation, toujours plus dociles, lubriques et faciles. Les propos de Maria Lugones sur les bases de colonisation du pouvoir ainsi que la colonialité du genre proposent une vision féministe et décoloniale qui met en exergue un combat contre le patriarcat institué par la mise en place de la colonisation. Selon elle, sous l'administration coloniale, nous assistons à une déshumanisation qui transforme les femmes en proie.
Mais revenons à l'exposition. Alors, cette expo de Berlin est en coopération et basée sur le principe de celle de la Nie Carlsberg Glyptothèque, basée à Copenhague. Donc, cette exposition à Copenhague a gagné le Art Critic Award de la meilleure exposition de l'année.
Cette exposition dévoile comment la production d'œuvres de Gauguin à Tahiti n'était pas isolée, mais faisait partie d'un paysage politique et culturel historique plus large. L'exposition examine, entre autres, comment l'art de Gauguin a été influencé par le mythe popularisé de Tahiti, qui, même avant le départ de Gauguin pour le Pacifique Sud, avait prospéré à travers un siècle d'impérialisme occidental et d'histoire culturelle. On vous invite à vous introduire dans un espace aux revendications multiples, empreintes de relecture féministe de ses œuvres, permettant une ouverture contemporaine du regard des personnes concernées face à l'histoire de l'art.
En parlant de ces artistes internationales, donc, dans l'exposition, il y avait l'œuvre Hibiscus Rosa Sinensis de Angela Tiatia, produite en 2010. Donc, petite présentation rapide. En 1911, le poète mexicain Enrique González Martínez écrit le poème « Tordre le cou du cygne au plumage trompeur », un appel aux armes pour que les écrivains sud-américains rejettent l'impulsion moderniste qui valorisait les modèles de la tradition européenne et adopte une esthétique mexicaine contemporaine. Un siècle plus tard, Tiatia se réapproprie le défi de Martinez. Elle tord le cou au cygne en dévorant un motif iconique du Pacifique, la luxuriante fleur d'hibiscus. Longtemps utilisée comme l'incarnation du corps féminin du Pacifique, de la sexualité et de l'abondance. Dans cette œuvre, donc vidéo, Tiatia permet à la caméra de suivre son corps lorsqu'elle émerge de la verdure tropicale en tenant une fleur d'hibiscus dans sa bouche. Pendant un bref instant, elle évoque le stéréotype de la jeune fille passive et disponible. Cependant, le regard de Tiatia devient rapidement puissant et immobile lorsqu'elle commence à dévorer la fleur. La violence symbolique du poème de Martinez est transférée d'une manière séduisante et pourtant confrontante. Son geste détruit simultanément la notion de l'autre exotique sexualisé et réaffirme en même temps sa propriété d'un emblème du paradis.
Alors, l'autre œuvre a été créée par Yuki Kihara, qui s'appelle First Impression de 2018. Du coup, cette œuvre, donc Paul Gauguin, écrit et réalisé par Yuki Kihara, est une série de talk shows épisodiques en 5 parties, capturant les réponses candides d'un panel de la communauté Fahafahafanin de Samoa à une sélection de tableaux de l'artiste français Paul Gauguin, dont certains sont censés représenter Mau, le troisième genre tahitien. Originaire de Samoa, Yuki Kihara est une artiste interdisciplinaire dont le travail vise à remettre en question les récits historiques dominants et singuliers par le biais des arts visuels, de la danse et de la conversation. Les œuvres de Kihara ont été présentées dans un certain nombre d'expositions individuelles, notamment au Metropolitan Museum of Art en 2008 et dans plusieurs biennales, dont le Bangkok Art Biennale de 2018. Ces œuvres font partie des collections du Los Angeles County Museum of Art et du British Museum, entre autres. La troisième œuvre, donc, est celle de Nasha Ibi et Kaer, Why Are So Angry, du coup, de 2017. C'est un film donc, de 18 minutes, et ce film passe de séquences chorégraphiées à des séquences informelles où l'on voit différentes femmes tahitiennes danser devant leur maison, aller au travail, au supermarché, se baigner dans une cascade, conduire leur voiture et reconstituer des tableaux reconnaissables dans les peintures de Gauguin. Ainsi, tout comme son titre, le film emprunte directement à Gauguin les lieux et les poses afin d'examiner les problèmes et les possibilités de réimaginer les femmes à travers son regard particulier. Cherchant à récupérer ces sujets fétichisés à travers les propres regards féminins des artistes, le film aussi entre des moments de grande beauté, une scène de plage ou de chute d'eau, ou des scènes dans lesquelles les femmes sont détendues, dansent, parlent et chantent, et des moments de malaise conscient et délibéré, dans lesquels elles paraissent nues et posées pour ressembler à une œuvre particulière de Gauguin, visiblement vulnérable et frustrée. De cette façon, le film aborde directement la différence entre un regard cinématographique dans lequel le temps passe, l'agitation du sujet est notable, et le public et les artistes sont impliqués par leur propre regard, et un regard pictural dans lequel le temps est apparemment capturé comme un seul moment et le sujet d'une peinture peut être lu comme un objet. D'autres artistes ont été exposés, comme les poètes Henri Hirault et Célina Tussitala-Marsh, que l'on vous invite fortement à aller lire.
Avant de conclure, on vous propose une petite pause musicale. Kande Yuta de Roba Estesa. Revisiter les œuvres de Gauguin, c'est aussi replacer l'expérience purement esthétique des œuvres dans un contexte qui nous permet de regarder nos propres contemporains à la lumière de l'histoire. L'univers pictural tahitien de Gauguin peut aujourd'hui donner lieu à des réflexions sur, entre autres, la représentation, le colonialisme et le genre. L'étude de l'art est fondamentalement politique. Les commentaires et choix scénographiques qui encadrent les œuvres influent sur la réflexion du ou de la spectatrice, et en omettant les éléments de contexte, c'est la normalisation de comportements criminels qui sont permis. Que ce soit Gauguin, Polanski, Allen, notre société doit cesser d'encenser publiquement pédocriminels et agresseurs, car cela est une véritable insulte aux victimes. Un peu de bienveillance envers des millions de femmes et d'enfants vaut bien une petite frustration artistique, non ? Voilà, sur ce, c'est la fin de l'émission. On espère de tout cœur que ça aurait pu vous éclairer sur la misogynie ordinaire et souvent explicite qui se tient dans les œuvres de soi-disant avant-gardistes et génies de leur temps.
C'était Élise et Myriam, et on se retrouve pour une prochaine émission pour continuer à polémiquer sur les injustices patriarcales. Et pour le reste, il s'avère que moi je pars en Belgique pour continuer les aventures artistiques et culturelles. Et donc, probablement, nous reviendrons éventuellement tous les 2 mois. On vous tiendra au courant. À bientôt.
Salut.
Salut.